de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Georges Brassens a dit « Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage. » Alors Patrice et moi, on a vu vérifier ça et donc nous nous sommes rendus au Salon des vins et produits du terroir en Chartreuse dimanche 17 mars à Saint-Laurent-du-Pont. Sur Radio Couleur Chartreuse, on vous dit tout sur les belles rencontres qu'on a pu faire. Voici un bouillon de Chartreuse inédit et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Bonjour Radio Couleur Chartreuse, à qui ai-je l'honneur?
Jean-Claude Sol, domaine Sol Pailleret.
Enchanté. Alors vous êtes basé où exactement?
Elne, c'est au sud de Perpignan, avant Argelès, Collioure.
Dans le sud alors?
Voilà, dans le sud, soleil. Au pied des Pyrénées.
Merveilleux.
Alors, côté Perpignan.
Donc vous avez une exploitation de combien d'hectares?
On exploite 60 hectares.
Ce qui fait du travail, on a pu le dire juste avant, en voix en off exactement. Alors, vous avez quoi comme vin aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Pont?
Alors, on a des vins de pays, des côtes du Roussillon, du blanc, du rosé, du rouge, des vins d'eau naturelle, plus certaines cuvées en rouge style Hemopector ou Scelerata. C'est du haut de gamme.
Et donc, je vois bien qu'on accorde un petit peu d'importance à l'étiquette. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, parce que l'étiquette, c'est le seul lien avec le vin que l'on peut avoir. Ça et la capsule. Donc il faut une certaine harmonie, il faut que ce soit convaincant, il faut que ce soit
un
déclic. Voilà.
Avec quoi on déguste vos vins? Des plats du sud ou bien un peu tout?
Non, un peu tout, oui. Les blancs, tout ce qui est tout ce qui est poisson, tout ce qui est pour l'apéritif. Ensuite, les rouges avec du rosé, avec une pizza ou une grillade. Il est bien de soi qu'avec les grosses cuvées, il faut quand même... cuisiner un tout petit
exactement,
peu, avoir une sauce,
fin,
et
voilà,
des plats différents.
Très bien. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors, autre part qu'à Saint-Laurent-du-Pont?
On fait tous les salons des vignerons indépendants, presque tous, après sur internet ou voilà.
Vous êtes en vadrouille alors?
Et au domaine.
Voilà,
aussi.
Au domaine aussi, bien sûr.
Et ça fait combien de temps que vous venez à Saint-Laurent-du-Pont alors?
Depuis le début, je pense.
Le salon a été créé il y a 18 ans en arrière. Donc, voilà. Il y a une année qu'il y avait eu un problème.
Il n'y avait pas eu de salon, je crois.
Oui, je vous en ai montré. Ça fait, monsieur, il est là depuis le début.
Infidèle.
Infidèle, oui.
Des fidèles, puisque et madame
oui.
Aussi.
Et puis là, moi, je sais que je suis un peu. J'aime bien. Du hors d'âge, j'en avais acheté. Peut-être pas la première année, mais la deux, trois... Vous savez, c'est des bouteilles noires, avec l'étiquette noire.
On a changé souvent de bouteille. Là, oui. On a changé au moins trois fois de bouteille. Voilà.
Oui. Ça fait partie donc du travail de se réinventer.
Non, il faut essayer de se renouveler un tout petit peu. Après, sous l'impulsion de notre fille aussi, on essaie de relooker un tout petit peu les étiquettes, les bouteilles. On a changé. Voilà, il faut rester un peu...
Ça reste familial, alors c'est toute la famille qui a mis la main à la pâte.
Ouais.
C'est génial.
Oui.
Et vos domaines en hectares, c'était combien? Vous étiez donné
On a 60 hectares.
60 hectares, oui, d'accord. Ça commence à faire beaucoup de travail. Donc. Et les vendanges sont manuelles ou?
On fait à peu près moitié machine et moitié manuelle.
Ah, d'accord, ok. D'accord. Et vous trouvez suffisamment du monde pour faire les vendanges, oui?
Ça devient compliqué.
Ça devient dur. Hein. Ouais. Je discutais l'autre jour avec le Bordeaux là-bas, par exemple. Eux, ils ont des difficultés aussi à trouver des vendangeurs, on va dire comme ça.
Ça devient compliqué.
Ah, ouais, toi.
Appel à tous les auditeurs.
C'est un peu tôt.
Oui, ça fait un peu tôt. Ouais. Voilà.
Eh bien, merci.
Merci.
Je vous en prie.
Merci.
Bonjour, comment vous appelez?
Breton. Pour le Jura, hein, c'est bien.
Hein. 20 du Jura, oui.
Ouais, 20 du Jura, un breton du Jura.
Alors, vous êtes vigneron?
Oui, madame.
Très bien.
Ou mademoiselle.
Combien
de temps?
Eh
bien, 75 ans.
Ah, ça commence à faire, alors.
Mais, j'ai toujours été dans la vigne.
Et comment on devient vigneron?
Mais de père en fils.
C'est un souvenir d'enfance alors que vous êtes bougé dedans.
Mes parents étaient paysans et puis ils faisaient de la vigne en même temps. Moi j'ai fait ma carrière chez Peugeot, je faisais de la vigne en même temps et puis je continue.
Oui.
Je continue avec maintenant.
D'accord. Et c'est le caveau d'autres.
Mais le caveau des Biards, c'est une coopérative. Il y a 16 adhérents.
Ah oui. D'accord.
Voilà. Donc moi, on travaille pour le caveau des biens, mais je fais de la vigne pour moi.
Pour vous, c'est vrai, vous mettez votre fille.
Ouais. Alors votre exploitation, elle fait combien d'hectares?
Ce qu'on a droit en retraité, 40.
Enfin, or, c'est déjà pas mal.
Or, mais l'exploitation du crédit du caveau des biens fait un peu plus de 42 hectares.
D'accord. Et la vôtre, personnellement, elle fait
40.
40 hectares.
On n'a pas le droit. Non, or.
Ah, 40 ans, pas plus.
On n'a pas le droit.
Ah, d'accord, ouais. Bon, j'ai petit, quand même, ouais.
Parce qu'en tant que retraité, tu es exonéré d'impôts jusqu'à 40 ans.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui au salon du vin de France?
Ben, on présente les vrais vins du Jura, donc les chardonnays, les plans chardonnays, et savagnins, et surtout le vin jaune et vin de paillet.
Très bien. Et quelle particularité donc de ces vins du Jura?
C'est le goût de terre, de noix. Et dans les vignes, on trouve des étoiles.
Intéressant.
On peut vous les montrer.
Oui.
On trouve des étoiles.
Ah, on va regarder ça, on va se rapprocher. On sort une petite boîte. Ah oui, c'est magnifique. Ah, c'est des tout petits cailloux en forme d'étoiles.
Des fossiles.
Ah oui, c'est ce que vous trouvez dans le...
Voilà, des fossiles. Superbe histoire.
Le village de l'étoile, et même en dehors de l'étoile, comme moi j'en ai dans mes vignes, on trouve ces étoiles-là.
D'accord, des petites étoiles.
Les spécialistes, ça serait des fleurs qui sont fossilisées. On n'était pas là. Hein.
Ah oui, oui, oui. Bon,
c'est exceptionnel. Ouais. Et avec quoi on déguste votre vin?
Alors, beaucoup, nous, c'est des fromages. Et puis, comme le vin jaune, ben, tout ce qui est avec tout.
Une petite préférence pour le fromage?
Ah ben, le fromage, le vin jaune au fromage, ça va très bien. Le savagnin, très bien aussi. Mais en dégustation qu'on met dans le Jura, à la cave, il y a des fromages avec tous les blancs. Les blancs et puis quelques rouges. Le rouge, on a le Poulsard, qui est d'origine du Jura. Et l'origine du Jura. Après, il est arrivé le Trousseau,
oui.
Le Pinot.
Oui.
Et
d'accord.
Puis maintenant, on fait un assemblage de Trousseau, Pinot, Poulsard, qui fait on appelle ça un rubis, en rouge.
Oh, intéressant.
Ouais. Mais l'origine... L'origine du Jura, c'est le blanc, Chardonnay, Savagnin, Poulsard.
Oui. Poulsard. C'est noté.
Après,
ça donne l'eau à la bouche.
Après, c'est arrivé après, les autres. Parce que chaque région, comme la Bourgogne, c'est le rouge, c'est pas le blanc. Le Jura, c'est le blanc.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on appelle le Macvin,
Mais le Macvin, c'est un jus de raisin,
oui.
Dont il sort du pressoir, dans lequel on met du mort.
D'accord.
Donc en proportion de 2/3, 1/3. Donc on met 2 bouteilles de jus de raisin et 1 bouteille de mort. Et on laisse ça minimum... Un an. Donc il faut que les proportions soient très justes pour éviter la fermentation. Et puis si on met trop d'alcool, ben, il n'est pas bon.
Oui, ça va bon.
Ça a le goût d'alcool.
Bien sûr.
Donc on fait depuis 2-3 ans, on fait la même chose en rouge. Macvin rouge, qu'on appelle maintenant vernoisine parce que les gens ils aiment mieux. C'est plus fruité, plus le goût de fruits rouges. Le match fin normal.
Donc vous essayez à chaque fois de vous réinventer
Oui, c'était réinventé, ça marche très bien.
Parce que moi personnellement, je suis allé un mois de ça.
À Poligny.
À Poligny, à la percée du vin jaune. J'avais avec des amis qui nous ont invités là-haut. Et c'est une très grande fête, mais paraît-il qu'elle n'est plus comme avant.
Non.
Ça a bien changé le logo.
Non, maintenant c'est uniquement sur invitation.
Oui, d'accord.
Qui avant c'était ouvert.
Ah.
Avant on tournait avec des 50 000, 60 000, même plus.
Non, mais non,
maintenant, ils limitent à 25 000.
25 000 personnes, c'est sur 2 jours quand même. Hein.
2 jours.
Oui, ouais, c'est ça.
Mais c'est un monde... Parce que le vin du Jura, qui est blanc, c'est surtout les blancs, ne se met jamais au frais. Jamais. Alors,
surtout pas. Ça, c'est un bon petit conseil à tous les auditeurs.
Jamais au frais. D'ailleurs, il y a les températures dessus. Si je prends un chardonnay, vous voyez,
de 10
à 12. Si je prends un vin jaune, ça va jusqu'à 17.
Ah oui, d'accord. Okay. Donc,
et le vin jaune se boit chambré.
Chambré, ah,
chambré.
D'accord, complètement. D'accord,
vous mettez un blanc du Jura au frigo, vous le ressortez, il va dire c'est chaud. Non.
Ah bon?
On appelle, il est cassé, il est cuit, c'est fini.
Il n'est pas bon. Ouais,
faire la cuisine, c'est tout.
Ouais, d'accord. Ah oui, carrément.
Ah oui. Alors, comme cette année, donc les dernières années, on a fait des super récoltes. super récolte, super qualité. Alors, à l'heure actuelle, on a entitiné, pour boire autrement, parce que notre vin a trop de sucre.
D'accord. Et donc, au niveau des normes, ça ne passe pas ou c'est simplement
non, on peut pas,
que...
on peut pas faire, on peut pas le mettre comme pour faire les créments. Comme pour faire les créments, on ne peut pas faire le crément parce qu'il y a trop de sucre.
D'accord.
Il faut les faire chuter. Hein, pour les faire chuter, on les fait refermenter, et on chauffe les caves.
D'accord.
Comment on ne peut pas faire on chauffe les caves. Après, là, il a fait sa fermentation normale, il a fait sa malo, on refait une refermentation. S'il n'y a pas assez, on en refait faire une continue en remettant des ferments.
Alors, comment ça se fait qu'il soit autant sucré?
Parce qu'on a une année exceptionnelle.
Dans
le Jura, j'ai jamais vu ça, je ne suis pas tout jeune, hein, j'ai jamais vu ça. On a sorti des pinots en prélèvement à la vigne, au réflectomètre, là, 15 degrés.
C'est...
15 degrés.
C'est énorme,
les pinots dans le Jura, je parle pour moi, je connais par cœur, quand on arrivait à 11,5, 12, voilà, c'est le summum, ça. 15 degrés.
D'accord.
C'est exceptionnel.
Jamais vu ça.
Au niveau des vendanges, c'est vendangé manuellement ou machine chez vous?
Alors, les créments sont interdits à la machine.
D'accord, les créments interdits à la machine.
Les vins de paille sont vendangés à la main, dans des cagettes.
D'accord.
Spécial, il ne faut pas que les grappes, il y a un grain ou deux de pourri dedans, on va dire pourri, sec, ou faut des grappes saines. Voilà.
Voilà, mais écoutez, monsieur, voilà. Merci. Hein.
Goûtez, là.
On a la chance d'avoir une petite dégustation. Ah, donc, c'est du chardonnay, tac-tac. Voilà, Saint-Patrice.
Merci.
Un vin blanc qu'on a la chance de déguster.
Un mac vin blanc.
Excusez-moi.
Il y a du mac vin blanc et du mac vin rouge aussi. Voilà, c'est pour ça. Ah. Moi, j'aime presque mieux le rouge, mais bon, c'est personnel.
Alors, Patrice, après. Tu vas m'aider parce que moi, je ne suis pas experte en la matière. Qu'est-ce que tu ressens, toi?
Alors, attendez, je suis en train de brasser un peu mon vin pour l'oxygéner. Je suis en train de boire. Oui, comme disait le monsieur, ça devient quand même quelque chose relativement sucré.
Ah ouais.
Très bon pour l'apéritif, je dirais. Moi, un apéritif, ça serait parfait.
Apéritif
ou même avec un gâteau au chocolat, alors ça serait encore mieux, presque mieux. Hein. Voilà, mais moi, c'est des vins que j'aime bien. Ma petite personnelle, j'en prends toujours trois bouteilles chez eux.
Moi aussi, j'aime bien, c'est vrai que...
Pour moi, un apéro, c'est génial. Un peu frais quand même, non?
Je veux dire, il faut que ce soit frais.
Et je te conseille, c'est un jour de vache. Merci, monsieur.
À votre service.
Bon salon.
Merci aussi.
Bonjour, Radio Couleur Chartreuse, à qui ai-je l'honneur?
Olivier Gonzalez, du Palais de l'Escargot à Chabon.
Super, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui?
Bah là, j'ai pas mal de mousse d'escargot à toaster, donc ça se fait sur des petits toasts croustillants. J'ai des escargots à piquer aussi pour les apéritifs, à l'huile d'olive au basilic ou au piment d'Espelette. J'ai des escargots confits dans la graisse de canard, des coquilles, croquis, enfin il y a pas mal de produits.
Tout sous forme de boîte?
Non, j'ai du surgelé aussi avec les escargots en coquilles justement et en croquis.
Super. Alors, quelle est l'origine de tous ces parfums? Ça vous vient comme ça? Vous vous dites avec du piment d'Espelette ou bien...
Dans la période la plus creuse, au mois de janvier-février, là, je prépare mes recettes, je vois ce que je peux faire. Mais là, bon, c'est des recettes quand même qui sont préparées depuis 3-4 ans. Je n'ai pas changé les produits.
Vous avez déjà testé, donc,
qui
marche.
Oui, pour l'instant, oui. Ça va bien.
Et donc, toutes ces petites mousses, vous les faites à partir donc, des escargots. Les étapes de préparation, ce sont lesquelles?
Déjà, il y a l'élevage. Donc là, en ce moment, par exemple, je fais la reproduction des escargots. Au mois de mai, on va les mettre dans les parcs. Ils vont grossir jusqu'au mois de septembre-octobre. On les ramasse au mois de septembre-octobre. Et puis, on commence à transformer. Et puis, après, ils se retrouvent dans les pots.
C'est fascinant. Mais comment ça se prépare, justement, l'étape de reproduction, tout ça, chez les escargots? C'est quelque chose... posé la question.
Là, il faut venir à nos portes ouvertes. Ça sera plus facile. C'est le 4 et 5 mai à Chabon.
Et rendez-vous, donc, début mai...
Au palais d'Escargot à Chabon.
Je vais vous voir pour la journée des portes ouvertes.
Oui, les portes ouvertes, c'est un samedi et un dimanche. C'est quand il y a les fermes ouvertes en Isère.
D'accord, oui.
On fait partie du réseau, bienvenue à la ferme.
Alors donc, vous faites ça depuis combien de temps?
Ça fait une dizaine d'années que je fais les escargots.
Génial. Et donc là, au Salon du Vin de France, avec quel vin vous nous conseillerez certaines de vos mousses?
Les escargots, là, moi, souvent, je les conseille avec du vin blanc. Alors là, je vais pas faire de la publicité pour tel ou tel vin, parce qu'il y a tous les viticulteurs à côté, mais voilà, plutôt avec du vin blanc, voilà.
Très bien. Eh bien, super, ça donne très envie en tout cas. Et on peut vous retrouver ailleurs que dans, sur votre exploitation ?
Ben, nous, on vend beaucoup à la ferme, on vend dans des magasins de producteurs, la Combe Gourmande sur Uriage, au Bouquet Paysan à Prieux, à la Gamme Paysanne à La Frette. Enfin bon, on a pas mal de points de vente. Ouais, et le plus près d'ici, là, puisqu'on est en Chartreuse, c'est au Petit Vival qui est à Saint-Étienne-de-Crossé.
Super, très bien. Et je vous remercie.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle.
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol,
un petit goût de gnoll.
Les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre,
vue sur les monétières.
C'est pire qu'un testament,
au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. J'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Papaya, papaya, papaya.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Bonjour, Radio Couleur Chartreuse.
Bonjour.
Comment
madame.
Vous appelez ?
Jean-Marc Ligné.
Enchanté. Alors donc vous êtes,
nous sommes donc des vignerons propriétaires, récoltants manipulants, uniquement des raisins de la propriété et des jus de la propriété. Parce que nous sommes dans une démarche HVE et donc on veut respecter ce critère et on veut que les raisins soient suivis avec une traçabilité totale.
Ils sont inspectés alors ?
Non, suivis.
Suivis, très bien. Alors vous êtes basé où vous ?
Nous sommes basés Sud-Champagne, en Champagne bien sûr, dans la Côte des Barres. Donc terroir essentiellement Pinot Noir, 70% de Pinot Noir, 20%, 25% de Chardonnay et 5% de cépage Pinot Meunier.
Oh. Et donc votre exploitation a l'air bien grande avec tout ça.
Non, la Champagne, la particularité de la Champagne, c'est que c'est beaucoup de petites surfaces. Nous avons une superficie de 8 hectares et demi.
D'accord.
Mais en Champagne, 8 hectares et demi, c'est des surfaces correctes pour vivre.
Donc qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au salon des vins de France à Saint-Laurent-du-Pont? Quels sont les produits
alors,
en vente?
Alors nous avons l'obligation de ne présenter que des champagnes. D'accord. Par rapport à nos collègues vignerons, mm-hmm, qui ont le droit de présenter d'autres vins, c'est-à-dire essentiellement des effervescents, les créments et autres. Nous, on ne peut présenter que des vins effervescents. Par exemple, l'Alsace peut présenter des vins effervescents avec les créments, ça fait partie de leur appellation. Alors que nous, on est limité uniquement aux vins mousseux, enfin effervescents.
D'accord. Donc là, je vois qu'il y a quelques bouteilles, en plus très jolies bouteilles. On peut parler de ces deux, trois bouteilles?
Alors, la gamme vient d'être refondue sur l'étiquetage. Parce qu'on avait un étiquetage vieillissant, donc aujourd'hui on a épuré les étiquettes et donc on propose une gamme complète de champagne pour tout client, du non sucré au très sucré.
Et donc vos champagnes, ils se dégustent avec.
Alors nous, on
avec a quoi la... les accompagner.
C'est pour ça que notre gamme est très large. On a des champagnes qui peuvent s'accompagner avec des foie gras et ce même champagne peut aller au dessert. On a des champagnes qui peuvent faire uniquement apéritif, des champagnes qui font repas et des champagnes après beaucoup plus particuliers pour des plats gibier ou des choses bien plus précises.
Et peut-être pour les desserts aussi s'il y a.
Alors le dessert, nous avons du champagne légèrement sucré. Mais en principe, quand on arrive au dessert, on n'est plus trop champagne.
Oui, c'est vrai.
Après, je veux dire que les champagnes, bon, c'est au goût de chacun et on essaye de s'adapter.
Très bien. Et comment ça se passe au niveau? Parce que moi, champagne, au niveau de la production, j'y connais rien, pour tout vous dire.
Alors, le niveau de la production est basée sur le nombre de bouteilles qui sont vendues à travers le monde. Et donc, plus il y a de bouteilles de vendues, plus on demande une production élevée. Et vice-versa, si il y a une baisse de bouteilles, la production diminue. Donc, on a des quotas qui sont imposés par le CVC, donc le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne, qui statue en disant, cette année, vous coupez X kilos. Mais d'une année sur l'autre, on ne sait jamais ce qu'on va couper. D'une année sur l'autre.
D'accord. Oui, c'est assez incertain, voilà.
Voilà.
Ça fait partie du métier.
On a des tendances, mais on n'a pas de chiffres précis tant que nous ne sommes pas à 2 mois de la vendange.
Ah oui,
donc là, aujourd'hui, valeur d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce que on va avoir comme autorisation, non, de couper en kilos.
Ah oui.
Donc on peut peut-être couper 10 000 kilos, l'appellation, 9 000, 11 000. L'année dernière, on a coupé 15 000 5. Je ne sais pas.
Ça, c'est incertain, oui.
Et personne ne le sait aujourd'hui.
Alors, vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans les champagnes?
Ça fait 19 ans. Oh. Précisément.
C'est pas mal.
Voilà. Donc,
comment vous y êtes tombé dedans?
Ah, je suis tombé dans le champagne par un mariage, parce que je ne viens pas du tout de la vigne, du tout.
J'ai pas une orientation.
J'ai changé d'orientation, mais je ne viens pas du tout de la vigne. Je viens de la grande culture. Donc, la vigne, c'était quelque chose que je voyais de loin. Donc, je suis venu aux vignes par un mariage.
Super. Voilà. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi.
Bonjour. Comment vous appelez?
Donc, je suis le Safran Nuguet, producteur de safran, donc sur Pressin, en Isère.
Donc là, qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui au salon de Saint-Laurent-du-Pont?
Eh bien, je vends du safran sous forme de pistil, qu'on peut utiliser en cuisine. Et des produits transformés, confitures, sirop de safran, vinaigre de cidre parfumé au safran.
Et comment ça se passe par rapport au vinaigre, au niveau des étapes de transformation du safran, même du sirop dans la tête, comment ça se subit?
Un sirop, c'est du safran macéré dans de l'eau et du sucre. Et, c'est très bon sur des desserts comme des crêpes ou des fromages blancs, ou alors simplement avec un pétillant comme il y en a quelques-uns dans le salon aujourd'hui. En apéro, en kir, c'est très très bon et très original.
Très très bonne idée alors.
Très bonne idée.
Alors je vois que le safran est antidépresseur, stimulant, digestif et analgésique.
Alors oui, le safran a beaucoup de vertus médicinales, comme beaucoup de plantes d'ailleurs, et il est particulièrement intéressant dans le cas de dépression. Les anciens l'appelaient l'épice de la gaieté. C'est pas pour rien, c'est que c'est un anti. Enfin, ça peut être utilisé comme antidépresseur. C'est également très intéressant pour la digestion, pour les douleurs. pour plein de choses.
C'est un tout en un, en fait.
Voilà.
Alors, avec quoi on cuisine le safran? Là, il y a plein de petites, toutes petites fioles. Avec quoi on cuisine ce safran?
Le safran peut être utilisé dans quasiment tous les plats où il apporte un parfum, où il relève les goûts. Alors, par exemple, vous avez quelques recettes ici, par exemple, dans une mousse au chocolat. L'accord avec le chocolat est très très bon. Dans les desserts avec les fruits.
Faut-il encore savoir doser le safran?
Ou alors, dans les risottos, de façon plus classique, ou même simplement dans une purée.
Donc votre exploitation, elle fait combien d'hectares? Si on peut avoir une petite vue d'ensemble.
Alors là, on ne parle pas d'hectares, on va parler de 2500 m².
D'accord. Mais c'est vrai que par rapport aux petites fioles, il n'y a pas besoin peut-être de bien plus.
En fait, le safran, il en faut très peu pour... donner un très beau parfum. Et ensuite, au niveau de la récolte, ici, vous avez 1 gramme de safran, ça représente à peu près 200 fleurs.
Ah ouais? Impressionnant. 200 fleurs?
Voilà.
Oh, c'est impressionnant, ça fait la taille. Bah, je peux le prendre dans ma main.
Pour 1 gramme, et avec 1 gramme, vous pouvez cuisiner une centaine d'assiettes.
Ah oui.
Pour vous dire la puissance
de cette fleur,
de ces arômes.
Mmh. Ah, c'est impressionnant. Mmh. Voilà. C'est un peu de la magie, en fait.
C'est un peu de la magie.
Et ça fait combien de temps que vous faites...
Ça fait 6 ans.
Ça fait
6 ans.
Donc ça vous est venu comme ça, comme une mouche qui vous a piqué?
Un peu.
C'est une belle reconversion. Super. Eh bien, je vous remercie.
Je vous en prie.
Ah bon, ça va? Bonjour, Radio Couleur Chartreuse. À qui ai-je l'honneur?
Alors, je suis Rémi Baudin, apiculteur à Saint-Joseph-de-Rivière. Donc, je suis associé au GAEC Les Ruchers de Chartreuse, associé avec Hervé Tavernier.
Ça fait longtemps que vous faites ça?
Alors, Hervé a créé l'exploitation en 2014 et je l'ai rejoint en 2016 sur un stage de reprise d'exploitation et on a créé le GAEC au mois d'août 2017.
D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui au salon de Saint-Laurent-du-Puy?
Nous, on expose du miel. On est producteur transhumant, ce qui nous permet d'avoir une grande gamme de miel. Donc, on fait 4 miels en chartreuse.
Ce qui veut dire transhumant, c'est
ça veut dire qu'on déplace les ruches.
D'accord.
Un peu comme on transhume des moutons ou des vaches.
D'accord.
Et donc, on fait 4 miels en chartreuse, un tout fleur de printemps, un miel de forêt, un miel de montagne et un miel de tilleul. Et on va faire 4 miels en dehors donc de la chartreuse. Donc un qu'on fait dans le Jura, le sapin.
D'accord.
Le miel de lavande qu'on fait dans la Drôme. Le miel d'acacia qu'on va faire une partie à Voirep et une partie dans l'Ain. Et le miel de châtaignier qu'on fait à Charavine.
D'accord, super.
Et sur Saint-Joseph, c'est du miel...
Et sur Saint-Joseph, on fait le forêt et le montagne.
Ah,
ça dépend, enfin la montagne, on va le faire plus... Enfin, ça dépend des années, soit on va aller vraiment en chartreuse du côté de Saint-Pierre, soit ici du côté de Méribel en fait, pour être à l'altitude suffisante.
Et vous avez toujours des ruches sur la Bourderie là où...
On a toujours le rucher sur la Bourderie.
D'accord, ok.
Toujours.
Et quand vous dites ça dépend des années, c'est-à-dire que c'est par rapport à la météo?
C'est par rapport à la météo, exactement. On a vu l'an dernier, la météo en montagne a été catastrophique jusqu'au mois de juillet, quoi. Donc tant que... Ouais, nous, voilà, les ruches étaient plus basses et ça a donné, quoi, plus bas. Alors qu'en haut, c'était l'horreur, il pleuvait beaucoup trop, quoi.
Alors je vois, il y a plein de miel. En plus, au niveau de l'étiquetage, c'est vraiment... ils sont magnifiques, quoi. C'est vraiment très, très en vue. Ici, on a un salon du vin. Quel vin pourrait s'accorder avec vos miels?
Quel vin?
Exactement.
Oh, c'est un peu une question piège. J'avoue que je ne sais pas trop, quoi. Autant on s'est accordé du fromage ou de la charcuterie avec des miels. Mm-hmm. Autant du vin, c'est un peu une question piège. J'avoue que là...
Et alors, si on va transformer ça, alors si on prenait un fromage?
Alors... Si on part sur des miels un peu typés comme un miel de sapin ou un miel de montagne, on peut manger avec des fromages comme du comté ou des fromages à pâte dure.
D'accord.
Après, si on est sur des miels plus doux comme le lavande ou l'acacia, ça marche très bien avec du miel du fromage de chèvre, pardon.
D'accord.
Après, nous, les miels, on va aussi pouvoir les associer avec des petits ponches. Plutôt que de mettre du sucre ou du sirop de canne, on va mettre du miel, ça marche bien. Puis après, on a des miels à tartine, quoi, avec du beurre. Voilà.
Mais oui, c'est la meilleure façon. Plus simple,
c'est la meilleure façon, ouais, c'est clair.
Et alors, je vois, il y a plusieurs consistance, on va dire, de miel. Comment ça se...
En fait, vous avez...
mielleux, un peu plus dur.
En fonction de la proportion des sucres que vous avez dans un miel, dans le nectar, plus il va être riche en fructose ou en glucose, et en fait, ça va vraiment modifier, c'est naturel, c'est une D'accord. modification naturelle de la consistance du miel. Typiquement, un miel de printemps qui est très riche en pissenlit, le pissenlit, c'est un nectar qui est vraiment très très dur, quoi. Là, il est liquide parce qu'on vient de les mettre en pot, mais après, quand il fige assez vite et il est très très dur, quoi. Alors que vous avez deux miels qui restent liquides très longtemps, voire normalement toujours, c'est l'acacia et le miel de sapin. Et après, quand on est sur des polyfloraux comme le miel de forêt ou le miel de montagne, où dedans on a souvent du tilleul, le tilleul c'est un nectar qui va faire cristalliser le miel aussi. Donc, c'est pour ça qu'il vient du.
Et donc justement une question par rapport à la conservation des miels, comment on garde un miel? Comment c'est s'il faut...
Déjà ce qui est sûr, le miel n'aime pas le soleil direct. Faut pas qu'il prenne le soleil direct parce que le soleil il va vite le chauffer et il va le reliquifier assez vite et après il prend une sale tronche, il va biphaser.
Il y a du sucre après, ça cristallise.
Ouais, c'est ça, il cristallise, exactement. Après, il aime pas les hautes températures aussi. Alors, les hautes températures, déjà à 30 degrés, moi je considère qu'on est déjà dans la température assez haute. Le mieux c'est d'être en dessous des 25, quoi. Après, c'est pas parce que le miel il prend une sale tronche qu'il est plus consommable, c'est juste qu'on a altéré sa structure. Mais en termes de goût ou de conservation, il est encore bon. Quoi. Après, on sait qu'un miel est fermenté quand il commence à mousser ou quand on l'ouvre, il fait pchit. Quoi.
D'accord. Voilà. Petit conseil très intéressant.
Ouais.
Oui, une question que je vais vous poser. Enfin, moi, je suis donc de la Vaudrie, vous savez. Et avant, chez nous, on avait une dizaine de ruches.
D'accord.
Qui ont par la suite, on va dire qu'elles ont crevé. Après, j'en ai donné une partie à mon cousin par la chambre belle.
Ouais.
Je ne me rappelle plus exactement comment la fabrication se fait. Les alvéoles qu'on ramassait et qu'on extrayait le miel, c'est à quelle période?
Ah ben, ça dépend. Ça dépend si vous cherchez à faire des miels de cru ou si vous cherchez à faire des polyfloraux. Ah. Nous, typiquement, ce qui nous permet de faire en Chartreuse 4000 différents, c'est parce qu'on va les récolter à des temporalités différentes. Un printemps, fin avril, on va le récolter.
Ah d'accord.
Après, on va laisser quasiment les hausses du mois de mai, juin, juillet, ce qui va nous permettre de faire le forêt ou montagne.
Ce qui permet donc aussi de vous déplacer.
Voilà, ce qui permet de nous déplacer. En fait, en fonction des fleurs qu'on va chercher, on va récolter un acacia. En fait, on va récolter juste avant la floraison d'acacia pour apporter des hausses vides. Les abeilles, elles vont monter l'acacia dans les hausses. Et dès que l'acacia est terminée, on va le récolter tout de suite. Parce qu'en général, dès que l'acacia est terminée, on peut avoir soit du tilleul ou soit de la ronce qui va démarrer. Et pour qu'on garde la typicité vraiment acacia, qui est un miel qui est très doux, qui peut très vite s'altérer en termes de goût, et ben là, on va vite récolter pour apporter des nouvelles hausses pour faire un miel de tilleul. C'est comme ça qu'on fait des miels de cru, en fait.
Ah oui. Et l'extraction du miel, elle se fait... Alors nous, à l'époque, mes parents avaient qui tournait en rapidité, c'est toujours le même principe ou
c'est toujours le même principe,
on
est toujours avec des extracteurs, des centrifugeuses. Ouais.
Ah d'accord, voilà, c'est ça, ouais.
Ouais,
c'est toujours le même principe. Votre point de vente, c'est sur Saint-Joseph-de-Rivière?
Alors on vend à Saint-Joseph-de-Rivière sur exploitation, on vend aussi à la ferme des Plantimets, on vend au Vival de Saint-Laurent, au Vival de Méribel-les-Échelles.
Oui.
Pour faire en local, on est là. Après, on vend un petit peu en dehors.
Et au Poron, là où c'est on peut acheter du miel au Poron ou non?
Oui, sur l'exploitation.
D'accord, sur l'exploitation.
Ouais.
D'accord, ok.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Tout à fait, ouais.
Ouais, voilà. Bah écoutez, merci.
Merci
c'est
à vous.
C'est gentil.
Eh bien, je vous remercie. Puis je vous souhaite un bon salon.
Merci bien.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Bouillon de Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Radio Couleur Chartreuse, bonjour. À qui ai-je affaire ?
Société L'eau à la bouche, je fabrique des pâtes à tartiner 100% artisanales avec des matières premières de la région Rhône-Alpes.
Super. Et vous êtes basée où ?
Le lac de Paladruche.
Donc local, ça reste bien local.
Oui.
Alors comment on se réveille un matin, on se dit on va faire des pâtes à tartiner, comment ça se passe ?
Du coup, en fait, je fabriquais mes gaufres sur les foires. Du coup, j'avais déjà fabriqué ma pâte à tartiner. Du coup, je voyais que ça plaisait aux clients et petit à petit, j'ai développé la gamme avec 20 parfums différents.
Donc là, oui, au salon de Saint-Laurent-du-Pont, il y a vraiment de nombreux parfums. Je vois qu'il y a chartreuse, donc en fait, vous incorporez dans la préparation un peu de chartreuse.
Oui, on est sur du chocolat noir Valrhona et de la chartreuse verte, tout simplement.
Génial. Vous en avez d'autres à nous proposer, là, de petits pots ?
Là, on a les deux classiques, donc le noisette lait et le noisette noir. Après, on a chocolat lait cacahuète, chocolat noir orange, menthe, gingembre. Puis après, je travaille... Oui. Là, il est peut-être plus, mais... Et après, je travaille avec les fruits de saison aussi. L'été, on va avoir framboise et en automne, au marron. Voilà, j'aime bien innover aussi.
Donc, on peut vous retrouver où, mis à part les salons ?
Les salons, et après, on a le site internet Pâte à tartiner du lac.
Et donc, vous vendez aussi dans...
Je fais essentiellement des magasins de producteurs. Je n'ai pas de vente directe sur le lac.
Non. Ouais. Super. Eh bien, je vous remercie.
Merci
bon
à vous. Vous aussi.
Radio Couleur Chartreuse, à qui ai-je l'honneur aujourd'hui ?
Et donc à la SICA du Granier qui commercialise les produits de la coopérative laitière des Entremonts.
Génial. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au salon de Saint-Laurent-du-Pont ?
Eh bien écoutez, je suis attendue comme chaque année par les clients qui sont de plus en plus nombreux sur le bassin de Saint-Laurent-du-Pont. Et donc on livre aussi, on a un magasin de producteurs à Coublevis et les gens ont été donc séduits par les produits lors des différents salons précédents.
On comprend pourquoi quand même.
Voilà, oui.
Alors qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Je vois que là, il y a deux côtés un petit peu. Vous séparez en deux les...
Voilà, j'ai sélectionné un petit peu des produits qui étaient affinés parce que c'est vrai que à force de vendre, on a du mal à fournir. Mais bon, voilà. Donc j'ai sélectionné une petite raclette. C'est plus trop la saison, mais voilà, c'est encore d'actualité.
On peut toujours faire la dernière. Hein.
Voilà. Et un mont granier, le mont granier, c'est un type abondance en fait. J'ai sélectionné donc l'estival de Chartreuse, qui est la pâte cuite, qui est faite dans la...
Un peu comme du comté au niveau du goût, comment ça se...
Oui, intermédiaire entre le gruyère et le comté.
D'accord, très bien.
Voilà. Et puis donc le délice de Chartreuse, c'est une façon reblochon. L'écorcé de Chartreuse.
L'écorcé, il m'intrigue un petit peu, puisqu'il a tout le côté assez noir, assez foncé.
Alors donc, en fait, c'est de la même façon que le délice, sauf qu'il est cerclé d'épicéa. Donc voilà, c'est le bois que vous voyez foncé autour. Voilà. Et donc, ça le rend moelleux et ça lui donne du goût. Voilà.
C'est pas trop fort en bouche, ça reste...
Ça reste très moelleux et donc ça conduit bien le goût, c'est vraiment un super fromage.
Et donc là, on est au Salon du vin de France. Avec quoi est-ce qu'on pourrait mélanger vos fromages?
Donc avec des vins blancs, en fait tous les vins vont bien avec les fromages.
Si par exemple là, je voudrais un écorcé, vous me conseillerez quoi comme vin?
Eh bien écoutez... Je vous dire un vin de Savoie, hein, bien sûr.
C'était la bonne réponse.
Un vin de Savoie, un Abîme, un Apremont, même une Roussette, voilà.
Très bien. Eh bien, je vous remercie.
Et bien, je vous en prie. Très bonne journée. Bon salon. Merci. Au revoir.
Radio Couleur Chartreuse, bonjour. Je suis devant un petit stand de noix. Et donc, à qui ai-je l'honneur ?
À Olga Berthet pour le GAEC des Sept Noyers de Saint-Vincent-de-Mercuse. Donc, nous, on est producteurs de noix, on est producteurs bovins et céréaliers. D'accord. Mais on fait de la vente en direct, donc de noix, de vente de viande aussi. Mais là, aujourd'hui, donc, je suis venue juste avec les noix. Voilà.
Donc, je vois qu'il y a plusieurs variétés de noix. Même dès qu'ils sont caramélisés.
Alors, voilà, je fais des noix, voilà, j'essaye de décomposer la noix en plusieurs facettes. Donc il y a de la noix version salée, version sucrée. En salée, il y a trois sortes de noix. Donc une qui est cuisinée avec de la moutarde, sarriette et échalote, cumin, herbe de Provence et puis piment doux fumé. Donc ça, c'est des noix consommées aux apéros, avec les fromages, avec les salades. Non, c'est plutôt à les consommer comme ça pour avoir le goût voilà, de quelque chose de salé dans la bouche, légèrement salé d'ailleurs. D'accord. Après, il y a de la confiture de noix, donc on peut manger avec des crêpes, des gaufres, ça peut servir de base de dessert. Voilà.
Comment on prépare la confiture de noix? Même principe que pour une confiture
Avec beaucoup d'amour.
Ah, c'est ça. C'était la bonne réponse.
Voilà. Et puis ensuite, je fais un biscuit aux noix, donc un mac noix qui est fait uniquement avec des œufs, du sucre et des noix. Et qui est une sorte de petit croquant aux noix. Et puis une noix parfumée à l'orange, donc l'exquise noix, qui elle est cuisinée avec du zeste d'orange et de l'orange pressée, très peu sucrée.
Ça, voilà. Ça va être très
donc
sympa
ça, à offrir. C'est, voilà, à offrir et puis à consommer avec à l'heure du thé ou sur des petites verrines, des choses comme ça. L'huile de noix, donc traditionnelle, et puis ensuite ben, les rustinois, qui sont des noix caramélisées aussi, qu'on trouve voilà, assez régulièrement. C'est une friandise aux noix. Le cerneau de noix.
4 heures, alors.
Voilà. Le cerneau de noix, et puis la noix en AOP, en noix de Grenoble, en 1 kg, 2 kg et 5 kg. Voilà.
Génial. Alors, comment ça se passe pour l'huile de noix? Comment on la prépare avec les machines?
Donc, on la fait faire par un moulinier. Donc, elle est faite chez un moulinier, un professionnel, qui est sur aux environs de Bouvesse-Quirieux. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment... En fait, on lui apporte les noix, parce que nous, quand on y va, on emmène environ 300 kg de noix décortiquées.
Ah oui.
Entre 200 et 300 kg à peu près, hein, pour les grosses pressées. Et mon mari reste avec lui et ramène notre huile. Voilà,
c'est
passe la journée avec lui parce que c'est assez long. Et
donc
voilà.
200 à 300 kg de noix, ça représente combien de bouteilles d'huile de noix?
En litres, ça représente environ entre 180, 200, 210 litres à peu près.
C'est d'accord.
À peu près, voilà, quand je vous dis 300, bon, c'est jamais 300 kg de noix, mais bon, c'est à peu près le maximum
que
je puisse amener. Ça représente environ 22 pressées.
D'accord.
À peu près. C'est des pressés au kilo, voilà. Donc voilà.
En tout cas, jolie bouteille avec une jolie étiquette. Mmh.
Avec un logo, donc pour le GAEC des Sept Noyers. Voilà.
Exactement.
J'ai une question à vous poser, madame. Saint-Vincent-de-Mercuse, ça se trouve à quel endroit?
précisément dans...
Donc c'est dans la vallée du Grésivaudan.
Oui.
C'est entre Grenoble et Chambéry.
D'accord.
Pour situer, c'est entre Pontcharrat et le Touvet.
Ok, d'accord. Voilà. Et vous avez vos productions, vous vendez aussi vos produits sur place
Maximum, donc on vend en vente directe, sur des salons, à la ferme.
À la ferme aussi.
Voilà,
d'accord.
Ouais,
d'accord.
Ouais. Et après, on nous trouve sur contact, de toute façon, on nous appelle et... On a un site internet, donc on peut nous trouver aussi sur notre site internet, sur le www.lafermedelafuma.com. Voilà.
Génial.
Ben merci.
Voilà.
Voilà.
Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans la noix ?
Dans la noix, depuis longtemps. Moi, ça fait 23 ans que je travaille avec mon mari. Donc ça fait 23 ans qu'on est en vente en direct. Et en GAEC, ça fait depuis 2015. Voilà.
D'accord, très bien.
Voilà.
Ça, donc, la noix n'a plus de secret pour vous.
Voilà, on va dire à peu près ça.
Eh bien, je vous remercie.
Voilà,
passez un bon salon.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Radio Couleur Chartreuse. Et alors là, je suis devant un petit stand. C'est le lait de jument. Alors, à qui ai-je l'honneur ?
À Mélanie Barra, je suis la gérante en fait de Perles de Jument et du Haras du Vercors à Villard-de-Lans.
Villard-de-Lans, d'accord.
Oui.
Donc qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui dans ce salon de vin de France ?
Alors je propose des produits cosmétiques et des soins en fait à base de lait de jument bio pour les peaux sensibles, pour tout le monde en fait. C'est des soins pour le corps, le visage, voilà, et des compléments alimentaires.
Génial. Et donc vous avez une exploitation avec plusieurs juments donc j'imagine ?
Oui, tout à fait. Sur place, on a entre 50 et 60 chevaux parce qu'on est centre équestre et éleveur et producteur de lait de jument. Voilà.
Donc, à quel moment ça devient bio c'est par rapport à ce que la production ou bien ce que vos juments mangent comment ça...
Oui, alors en fait, c'est donc les juments et le lait sont labellisés bio. C'est en fonction justement de leur alimentation, bien sûr, qui est une alimentation sans ajout de quoi que ce soit de chimique ou de pesticides dans les prairies. Et puis, en fonction aussi des soins qui leur sont apportés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux. En fait, on laisse faire la nature ou alors on les soigne avec de l'homéopathie.
De toute façon, il n'y a pas de meilleure façon de faire, on va dire.
Tout à fait.
Et donc, j'imagine que vous avez un petit local pour fabriquer toutes vos lotions, vos compléments, tout ça ?
Tout à fait. Donc, on en fabrique une grande partie sur place. En effet, on a un petit laboratoire qui est fait justement pour la transformation en cosmétiques et en compléments alimentaires.
Alors, comment ça se passe pour faire une petite crème, par exemple ?
C'est une recette de cuisine, en fait.
Ah, faut pas révéler le secret, c'est ça ?
Non, c'est pas ça. Enfin, c'est que ça se fait comme une recette de cuisine. Hein, on mélange les ingrédients, en fait. Il y a plusieurs étapes. Voilà, il y a des températures à respecter, des étapes. Donc, nous, ce qui est très important dans notre processus, c'est qu'on ne fait jamais chauffer le lait au-delà de 40 degrés. Donc, pour qu'en fait, il garde toutes les propriétés du lait cru et que ses propriétés régénérantes puissent être vraiment optimisées dans les produits.
Parce que voilà, le lait de jument, sa particularité, c'est d'être... régénérant, comme vous venez de dire. Et donc, comment on se dit on va faire des produits de beauté avec du lait de jument, en fait ?
Alors, en fait, c'est le lait le plus proche du lait maternel et il a des propriétés cicatrisantes, apaisantes et hydratantes, comme le lait de femme, en fait. Et du coup, quand on le transforme ensuite dans les produits cosmétiques, par exemple, il va vraiment apporter un côté soin qui est très apprécié pour les peaux sensibles aussi. Puis pour tout ce qui est lésions cutanées, ça apporte du confort, en fait.
Super. Et donc, on peut retrouver peut-être plusieurs parfums, mais le lait a-t-il une odeur ou c'est vous, après, qui faites une sélection quelque chose comme
Alors, en effet, le lait n'a pas d'odeur et il est très liquide, en fait. Il contient que 1% de matière grasse. Donc, voilà, il donne ni l'odeur ni la texture au produit. Nous, après, en fait, on ajoute des ingrédients végétaux qui vont avoir une senteur qu'on a sélectionnée, qu'on a composée, en fait, avec des extraits naturels et qui va être très légère dans les produits.
Et donc vous, ça fait combien de temps que vous faites ça ?
Alors nous, ça fait la 9e année. Donc voilà, on a une clientèle du coup qui découvre aussi la production de lait de jument au début un peu par curiosité et puis qui se fidélise en fait, qui revient vraiment pour la qualité des produits. Donc c'est un encouragement pour nous.
Et donc, mis à part ce salon, on peut vous retrouver où
Alors en fait, on est vendu bien sûr sur notre site internet perledejument.com. Vous pouvez aussi nous trouver en pharmacie, institut de beauté, magasin bio, en région grenobloise et un peu dans toute la France.
Avis à tous les auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci,
avec plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, je suis en compagnie de Patrick et Patrice, président de ce rassemblement, exactement. C'est la 18e édition cette année. Et quelle est l'origine, la genèse de ce projet ?
Alors, ça a été créé il y a 19 ans de ça. malgré que ce soit le 18e salon. Ça a été créé il y a 19 ans parce que le club de basket recherchait une ressource financière. Et il n'y a pas de secret. Et on a été un groupe d'amateurs de bons vins. Donc on est parti sur cette idée. Et puis ça fait son chemin. Si les premières années on avait 200 ou 300 visiteurs, maintenant on tourne à 700-800 et ça commence à être
très bonne évolution. Yeah. Ouais.
Voilà.
Je dirais qu'au départ, on était quatre dans le bureau, quatre passionnés de vin, on va dire comme ça. Il y avait Bernard Mupaillet aussi qui n'est pas là aujourd'hui, pas en même temps. Il y avait Patrick, il y avait Jean-Louis et il y avait moi. Et on se réunissait de temps en temps à la maison ou chez Patrick et on faisait une dégustation aussi.
C'est vrai que oui, le basket et le vin, on peut se dire c'est à l'opposé. On voit Chartres,
oui.
Basket.
Mais à l'époque, basket. On jouait plus, on était dirigeants. On était dirigeants.
Et donc ça s'est toujours passé à Saint-Laurent-du-Pont cette
une seule fois. Alors donc il y a une fois où ça a été annulé parce qu'on n'était pas dans les clous au niveau administratif, et une fois où ça a eu lieu à Les Échelles, où on avait décentralisé parce qu'on avait eu un souci pour la réservation de la salle ici. Mais autrement, c'est toujours à Saint-Laurent-du-Pont, et ça sera toujours à Saint-Laurent-du-Pont.
Pour les habitués, vaut mieux que ça reste comme ça.
Tout à fait.
Et donc comment on choisit les exposants?
Alors, la grosse majorité, ce sont des. Alors, la grosse majorité viennent depuis 18 ans.
D'accord.
Donc, il y en a 14 sur les 34 qui viennent depuis 18 ans. Les autres, il y en a encore 7 qui viennent depuis 10 ans. Et puis, les autres, sont là depuis 2-3 ans. On goûte leurs produits. Si c'est bien, on valide. Si ça ne nous convient pas, soit parce que ce n'est pas des producteurs, parce qu'on veut que des producteurs. D'accord, et des récoltants. Oui. On ne veut pas de revendeurs. Et voilà, donc on fait un tri entre nous quand on fait nos dégustations.
D'accord, très bien. Et donc ça permet peut-être aussi aux jeunes producteurs de se faire connaître, de se faire un petit peu.
Alors on a quelques jeunes producteurs qui sont là et puis qui ont repris soit les successions familiales, soit des domaines. Et effectivement, on a quelques jeunes producteurs et là, on les aide pour démarrer et se faire connaître.
Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille les barques dociles aux bras des amants, de fraîches guinguettes, des filles bien faites, et y a des chansonnettes, et y a du vin blanc.
On se quitte sur une citation de Louis Pasteur, il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Et surtout, à l'année prochaine pour la 19e édition. Bonne journée à tous, bye bye.
Du côté de nos gens, et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés. Suivons le conseil, monsieur le soleil, connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez, belle fille, soyez bien gentille, là sous la charmille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste nette, il y a des chansonnettes, et il y a du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois. On les prêts du côté de nos gens. Assage charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande ses verres à la jeune enfant. Ma fille raconte, comment triste honte as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah,
le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres quand les filles sont vertes du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les forêts, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les forêts, du côté